Ardigan. Ardigan présente Cthulhu, le mythe, tome 2. H.P. Lovecraft. Lu par Nicolas Planchet. La couleur venue d'ailleurs. À l'ouest d'Arkham, les collines sont sauvages, et les bois touffus des vallées n'ont jamais connu la morsure de la hache. Il est des trois vallons sombres où les arbres sont incroyablement inclinés, et où de minces ruisselets coulent qui n'ont jamais reflété l'éclat du soleil. Là où les pentes sont plus douces, d'antiques fermes branlantes aux chaumières moussues et trapues ruminent sans fin les vieux secrets de la Nouvelle-Angleterre à l'abri de hautes saillies rocheuses. Mais toutes sont désertes désormais, et leurs grandes cheminées tombent en ruine, tandis que leurs flancs habillés de bardeaux gonflent dangereusement sous leurs toits bas à deux pentes. Les anciens sont partis, et les étrangers n'aiment pas vivre là. Des Canadiens français ont essayé, des Italiens ont essayé, et des Polonais sont venus et repartis. Non pas qu'il y ait quoi que ce soit qu'on puisse voir, entendre ou toucher. C'est plutôt une question d'imagination, car cet endroit n'est pas bon pour l'imagination, et les rêves qu'on y fait la nuit n'ont rien de reposant. C'est forcément pour cela que les immigrants évitent la région, puisque le vieil ami Pierce n'a jamais évoqué devant eux ses souvenirs des jours étranges. Ami, qui a l'esprit un peu dérangé depuis des années, est le seul qui reste dans la région, ou à qui il arrive de parler des jours étranges. Et s'il ose le faire, c'est parce que sa maison est très près des champs et des voies fréquentées autour d'Arkham. Dans le temps, il y avait une route qui traversait les collines et les vallées, et passait là où se trouve maintenant la lande du diable. Mais elle n'est plus utilisée, car on en a tracé une autre qui fait un grand détour par le sud pour contourner la région. On trouve encore des vestiges de l'ancienne route parmi les mauvaises herbes d'une nature sauvage qui reprend possession des lieux. Et il en restera sans doute encore quand la moitié des vallées seront inondées pour le nouveau réservoir. Alors on coupera les bois sombres, et la lande du diable sommeillera tout au fond des eaux bleues, dont la surface reflétera le ciel et ondoiera au soleil. Et alors les secrets des jours étranges rejoindront ceux des profondeurs, et les traditions secrètes du vieil océan, et tous les mystères de la terre des origines. Lorsque je partis visiter les collines et vallons pour dresser le plan du réservoir, on me prévint que l'endroit était maudit. L'avertissement venait d'habitants d'Arkham, et comme Arkham est une très vieille ville pleine d'histoires de sorcières, je considérais cette malédiction comme une simple légende, de celle que les grands-mères chuchotaient depuis toujours aux enfants. Le nom de « Lande du Diable » me semblait aussi étrange que théâtral, si bien que je me demandais comment il avait pu se retrouver dans le folklore de gens si puritains. Mais en voyant de mes yeux ce sombre enchevêtrement de vallons et de pentes, à l'ouest, je cessai de me poser des questions, hormis sur l'ancestral mystère qu'il évoquait. C'était le matin, mais l'ombre ne cessait jamais de hanter cet endroit. Rien à voir avec les bois saints de Nouvelle-Angleterre. Les arbres y étaient trop serrés et avaient trop de gros troncs. Le silence qui régnait dans les vallées obscures était anormal. Et le sol était trop mou à cause de la mousse froide et humide et des tapis de pourriture millénaire. Dans les espaces découverts, principalement le long de l'ancienne route, il y avait de petites fermes à flanc de colline. Parfois, tous leurs bâtiments étaient encore debout. D'autres fois, il ne restait d'elles qu'une cheminée solitaire ou une cave qui se comblait vite. Des créatures sauvages se faufilaient dans les broussailles de ce royaume des ronces et des mauvaises herbes, Sur tout cela flottait un oppressant voile d'appréhension, une note d'irréalité grotesque, comme si un peintre avait échoué à rendre quelque élément essentiel de perspective ou de clair-obscur. Je ne trouvais pas étonnant que les étrangers ne veuillent pas s'installer, car il était difficilement envisageable de dormir dans un tel pays. Il ressemblait trop à un paysage de Salvador Rosa ou à une gravure interdite dans un conte terrifiant. Mais tout cela n'était rien comparé à la lande du diable. Je la reconnus à l'instant où je la foulais, au fond d'une vallée spacieuse. Nul nom n'aurait mieux convenu à un tel lieu, de même qu'aucun autre lieu n'aurait mieux porté ce nom. On eût dit que Shakespeare s'en était inspiré pour créer l'expression. En contemplant l'endroit, je conclus que son état devait être le résultat d'un incendie. Mais pourquoi n'avait-il rien poussé sur ce désert gris, dont les 2 hectares s'étalaient sous le ciel comme une immense tache creusée par de l'acide dans les bois et les champs? Elle se trouvait bien au nord de l'ancienne route, mais empiétait légèrement de l'autre côté. J'éprouvais une répugnance bizarre à m'en approcher, et ne pus m'y résoudre que parce que mon travail m'obligeait à la traverser. Il n'y avait pas la moindre végétation sur la large étendue de fine poussière ou de cendre grise que nul vent ne semblait jamais déplacer. Alentour, les arbres étaient chétifs et maladifs, et nombre de troncs morts, couchés ou debout, pourrissaient à sa frontière. En me dépêchant de passer, je vis à ma droite les briques et pierres écroulées d'une vieille cheminée et d'une cave. Puis j'aperçus la gueule béante et noire d'un puits abandonné dont les vapeurs stagnantes produisaient d'étranges illusions en changeant de nuances au soleil. Par contraste, l'ascension de la longue pente sombre et boisée qui suivit me parut presque agréable. Je comprenais mieux les chuchotements effrayés des gens d'Arkham. À proximité, je n'avais vu ni maison ni ruine. Même dans le temps, ce lieu avait dû être complètement isolé. Au crépuscule, redoutant de traverser ce sinistre endroit, je rentrai en ville en faisant un détour par la nouvelle route, au sud. J'espérais vaguement voir quelques nuages se former, car s'était insinuée dans mon âme une drôle d'appréhension à l'égard des abîmes du ciel. Le soir venu, je questionnai les gens d'Arkham sur la lande du diable et au sujet des jours étranges que tant d'entre eux évoquaient à demi-mot. Toutefois, je n'obtins aucune réponse digne de ce nom. J'appris seulement que le mystère était beaucoup plus récent que je l'avais cru. Il n'était pas question de vieilles légendes, mais de quelque chose qui s'était produit du vivant de ceux qui parlaient. Les faits dataient des années 1880. Une famille avait disparu ou avait été éliminée. Mes interlocuteurs refusaient d'être plus précis. Et comme ils me conseillaient tous de ne pas prêter attention aux histoires à dormir debout d'Amy Pierce, j'allais le voir dès le lendemain matin. J'avais appris qu'il vivait seul dans la petite maison branlante, là où les arbres deviennent très touffus. Il s'exhalait de la demeure effroyablement archaïque, cette vague odeur malsaine qui s'accroche aux bâtisses ayant fait plus que leur temps. Il me fallut frapper avec insistance pour réveiller le vieil homme. Quand enfin il vint à la porte en traînant les pieds et ouvrit craintivement, je vis tout de suite qu'il n'était pas content de me voir. Il n'était pas aussi faible que je l'avais imaginé, mais ses paupières qui tombaient curieusement, ses vêtements négligés et sa barbe blanche en bataille, lui donnait un air épuisé, lugubre. Sans trop savoir comment j'allais l'amener à raconter son histoire, je fis semblant d'être là pour le travail. Je lui parlai de mes mesures et l'interrogeai vaguement sur le pays. Il était beaucoup plus vif et instruit qu'on me l'avait laissé entendre, et en moins de temps qu'il ne fallut pour le dire, avait aussi bien compris que les gens d'Arkham de quoi il retournait. Il était différent des paysans que j'avais connus dans les régions où des réservoirs étaient prévus. Il ne protesta pas pour défendre les hectares de vieux bois et de terres cultivables qui allaient disparaître, mais il faut dire que sa maison était hors de la zone du futur lac. Il ne montra que du soulagement à avoir condamné ces antiques vallées sombres qu'il avait parcourues toute sa vie. Il préférait les savoir sous l'eau. C'était encore ce qu'il y avait de mieux depuis les jours étranges. Sur ce, sa voix rauque baissa. Il se pencha en avant et, malgré ses tremblements, leva l'index droit de manière impressionnante. C'est alors que j'entendis l'histoire, et en écoutant ce récit décousu narré d'une voix âpre et chuchotée, je frissonnais plus d'une fois malgré le temps estival. À maintes reprises, je dus rappeler à mon interlocuteur de ne pas trop s'éloigner du sujet, car il avait tendance à compléter les détails scientifiques qu'il répétait comme un perroquet après les avoir entendus de la bouche des spécialistes, mais que sa mémoire effaçait progressivement, ou à combler les vides avec son imagination quand le sens de la logique et de la continuité lui faisait défaut. Le récit terminé, je ne trouvais plus étonnant que Pierce ait quelque peu perdu la tête, et que les gens d'Arkham évitent de trop parler de la lande du diable. Je me dépêchais de regagner mon hôtel avant le coucher du soleil, car je ne voulais pas voir les étoiles surgir au-dessus de moi alors que j'étais en terrain découvert. Le lendemain, je retournai à Boston pour donner ma démission. Je ne pouvais pas remettre les pieds dans l'obscur chaos de cette vieille forêt pentue, et espérais ne jamais revoir cette lande grise et désolée où le profond puits noir béait, près des briques et pierres effondrées. Le lac artificiel sera bientôt réalisé, et tous ces antiques secrets seront à jamais à l'abri sous des brasses et des brasses d'eau. Mais même alors, je ne pense pas que j'aimerais visiter l'endroit de nuit. En tout cas, pas quand les sinistres étoiles seront levées. Et rien ne pourra me convaincre de boire la nouvelle eau de la ville d'Arkham. « Tout a commencé, » dit le vieil Amy, « avec la météorite. » Jusque-là, il n'y avait pas eu de légendes extravagantes depuis les procès de sorcières. D'ailleurs, même à l'époque, tous ces bois occidentaux étaient nettement moins craints que la petite île sur le Miskatonic, île où le diable avait sa cour à côté d'un étrange hôtel de pierre plus ancien que les Indiens. Les bois n'étaient pas hantés, et la pénombre étonnante qui y régnait n'eut rien de terrible jusqu'aux jours étranges. Puis, un midi, il y avait eu un nuage blanc, une série d'explosions dans l'air, et une colonne de fumée s'était élevée dans la vallée, au cœur des bois. Avant le soir, tout Arkham avait entendu parler du gros rocher qui était tombé du ciel et s'était planté dans le sol à côté du puits de Naum Gardner. C'était sa maison qui se trouvait à l'endroit de la future lande du diable. Sa coquette maison blanche, avec ses jardins et vergers fertiles. En allant parler de la pierre aux gens de la ville, Naum s'était arrêté chez Amy Pierce. Amy avait 40 ans à l'époque, et tous ces événements étranges étaient restés clairement gravés dans sa tête. Avec sa femme, il accompagna les 3 professeurs de l'université Miskatonic qui, dès le lendemain matin, s'empressèrent d'aller voir le drôle de visiteur venu de l'espace sidéral inconnu. Les scientifiques s'étonnèrent que Naum, la veille, les décrit si grands. « Il avait rétréci », expliqua Naum en montrant du doigt le gros monticule brunâtre qui dépassait de la terre éventrée et de l'herbe carbonisée, près du puits à bascule, devant sa maison. Mais les savants répliquèrent que les pierres ne rétrécissent pas. La météorite émettait toujours de la chaleur, et Naum affirma que la nuit précédente, elle avait produit une faible lueur. Les professeurs sondèrent la pierre avec un marteau de géologue et la trouvèrent bizarrement tendre, si tendre en vérité qu'il aurait presque pu s'agir de plastique. D'ailleurs, afin de rapporter à l'université un spécimen à analyser, ils la creusèrent au lieu d'en prélever un simple éclat. Il fallut transporter l'échantillon dans un vieux seau trouvé dans la cuisine de Naum, car le morceau, bien que petit, refusait de refroidir. Au retour, les universitaires firent halte chez Amy pour se reposer et parurent pensifs lorsque Madame Pierce leur fit observer que le fragment rapetissait et qu'il brûlait le fond du seau. Il ne semblait effectivement pas gros, mais peut-être en avait-il prélevé moins qu'il l'avait cru. Le jour suivant, tout cela se passait en juin 1882. Les professeurs, au comble de l'excitation, ressortirent comme un seul homme. En passant devant chez Amy, ils lui racontèrent la manière bizarre dont l'échantillon s'était comporté et lui apprirent qu'il s'était volatilisé quand on l'avait mis dans un bécher. Le récipient avait disparu aussi, si bien que les savants parlèrent de l'affinité de ce drôle de minéral avec le silicium. Il avait réagi de façon tout à fait incroyable dans ce laboratoire bien organisé, restant inerte, sans dégager le moindre gaz occlus, quand on l'avait chauffé sur du charbon de bois, se montrant complètement négatif à la perle de borax et ne faisant preuve d'absolument aucune volatilité quelle que soit la température, y compris en employant un chalumeau oxydrique. Et sur l'enclume, la pierre s'était révélée hautement malléable, et dans le noir, sa luminosité était très prononcée. Son refus obstiné de refroidir eut au fait de mettre l'université en ébullition. Et lorsqu'on la chauffa devant les spectroscopes, elle émit des raies de lumière de couleur jusqu'alors inconnue dans le spectre normal. Les universitaires surexcités discutèrent éléments nouveaux et propriétés optiques étranges, entre autres choses que les scientifiques perplexes disent face à l'inconnu. Étant donné sa chaleur, ils la mirent dans un creuset pour tester sur elle tous les réactifs adéquats. L'eau n'eut pas d'effet. L'acide chlorhydrique non plus. L'acide nitrique et même l'eau royale ne produisirent rien d'autre que des sifflements crachotants au contact de sa brûlante invulnérabilité. Amy eut du mal à se rappeler tous ces détails, mais reconnut certains des solvants lorsque je les citais dans leur ordre habituel d'utilisation. Il y avait l'ammoniac et la soude caustique, l'alcool et l'éther, l'écœurant sulfure de carbone, et une dizaine d'autres produits. Mais même si le fragment perdait régulièrement de la masse et semblait refroidir légèrement, aucune altération des solvants n'indiqua qu'il avait entamé un tant soit peu la substance. Cependant, il s'agissait d'un métal. Cela ne faisait aucun doute. Pour commencer, la matière était magnétique. De plus, après l'avoir immergé dans un bain d'acide, on crut discerner de légères figures de Winmanstatten, comme on en trouve sur le fer météorique. Lorsque le refroidissement fut très avancé, on poursuivit les tests dans du verre. Pendant qu'ils travaillaient, les scientifiques entreposèrent tous les morceaux du fragment d'origine dans le fameux bécher de verre. Le lendemain matin, éclats et verres à bec avaient totalement disparu. Seule une trace calcinée marquait l'endroit de l'étagère de bois qu'ils avaient occupé. Les professeurs racontèrent tout cela à Amy sur le pas de sa porte et une fois encore, il alla avec eux voir le messager de pierre venu des étoiles. Cette fois cependant, sa femme ne les accompagna pas. La météorite avait très manifestement rétréci, si bien que même les sages professeurs ne purent mettre en doute la vérité qui s'imposait à leurs yeux. Tout autour de la masse brune déclinante enfoncée près du puits, s'étendait un espace vide. Sauf là où la terre s'était affaissée. Et alors que la pierre mesurait bien 7 pieds de diamètre la veille, désormais, elle en faisait à peine 5. Elle était encore brûlante. Les savants étudièrent sa surface avec curiosité et prélevèrent un autre fragment plus gros avec un marteau et un ciseau. Cette fois, ils creusèrent profondément, et en extrayant le morceau, ils s'aperçurent que le cœur de la météorite n'était pas tout à fait homogène. Il venait de mettre au jour la surface d'un grand globule coloré encastré dans la substance. Sa couleur, qui rappelait certaines raies du spectre étrange de l'aérolite, était presque impossible à décrire. Ce fut seulement par analogie qu'ils parlèrent même de « couleur ». L'objet avait une texture lustrée et, en le tapotant, on sentait qu'il était creux et cassant. Lorsqu'un des professeurs lui donna un coup vif avec son marteau, le globule éclata avec un petit bruit sec. Nul gaz ne s'en échappa, et il n'en resta aucune trace après son explosion. Il laissa derrière lui une cavité sphérique d'environ 8 centimètres de diamètre. Tous pensèrent que la météorite, en se dissolvant, révélerait la présence de bulles similaires. Mais il était vain de faire des hypothèses, et après avoir essayé sans succès de trouver d'autres globules en perçant l'aérolithe, les chercheurs repartirent avec leur spécimen. Celui-ci, malheureusement, défia autant l'analyse que son prédécesseur. Mis à part sa nature presque plastique, sa chaleur, son magnétisme, sa légère luminosité, son refroidissement modéré quand on le plongeait dans un bain de puissants acides, son spectre inconnu, sa réduction de taille au contact de l'air, et le fait qu'il attaquait les composés de silicium avec pour résultat une destruction mutuelle, l'échantillon ne présentait aucune caractéristique permettant de l'identifier. Leurs expériences terminées, les scientifiques de l'université furent bien obligés d'admettre qu'ils ne parvenaient pas à le situer. Cette substance n'avait rien de commun avec une quelconque matière terrestre. C'était une parcelle de l'ailleurs infini, et en tant que telle, elle était dotée de caractéristiques d'ailleurs, obéissait à des lois d'ailleurs. Il y eut un orage cette nuit-là, et quand les professeurs retournèrent chez Nahum le jour suivant, ils furent amèrement déçus. La pierre, étant donné son magnétisme, devait avoir eu quelques propriétés électriques singulières, car elle avait attiré les éclairs, selon les termes de Nahum, avec une insistance étonnante. À 6 reprises en l'espace d'une heure, le fermier avait vu la foudre frapper le sillon de l'aérolithe. Une fois la tempête passée, il ne restait rien près du vieux puits, sinon un cratère déchiqueté à demi comblé par les éboulis de terre. Les scientifiques creusèrent en vain, puis confirmèrent que la météorite avait tout bonnement disparu. C'était un échec total, si bien qu'il ne leur restait plus qu'à rentrer au laboratoire pour reprendre les analyses sur le spécimen éphémère qu'ils avaient pris soin d'enfermer dans un récipient de plomb. Le fragment dura une semaine, au terme de laquelle on n'avait rien appris de plus. Enfin, il disparut sans laisser le moindre résidu et, le temps passant, les professeurs ne furent plus très sûrs de n'avoir pas imaginé ce mystérieux vestige des abîmes insondables de l'espace. Ce message, aussi unique qu'étrange, d'autres univers où existaient d'autres matières, d'autres énergies, d'autres entités. Naturellement, les journaux d'Arkham firent leur chou gras de l'incident et du rôle joué par l'université et envoyèrent des reporters interviewer Nahum Gardner et sa famille. Au moins un quotidien bostonien dépêcha aussi un journaliste, si bien que le fermier devint une sorte de célébrité locale. C'était un homme mince et jovial d'une 50aine d'années qui habitait la jolie ferme dans la vallée avec sa femme et ses 3 fils. Amy et lui se rendaient de fréquentes visites, tout comme leurs épouses. Après toutes ces années, Amy n'avait que des compliments à son égard. Nahum semblait assez fier de la notoriété de sa maison et parla souvent de la météorite au cours des semaines qui suivirent. Les mois de juillet et août 1882 furent très chauds, et le fermier travailla dur à faire les foins du pré de 4 hectares qu'il possédait de l'autre côté du Chapman, sa charrette bruyante creusant de profondes ornières sur les chemins ombrés qui y menaient. Le labeur le fatigua plus que les années précédentes, et il en conclut que les effets de l'âge commençaient à se faire sentir. Puis vint le temps des fruits et de la moisson. Les poires et les pommes mûrissaient lentement, et Nahum jurait que jamais ses vergers n'avaient aussi bien donné. Les fruits atteignaient des tailles phénoménales et avaient un lustre insolite. Leur abondance était telle qu'il fallut commander des tonneaux supplémentaires en prévision de la récolte. Toutefois, la maturité venue, la déception fut cruelle, car malgré le magnifique spectacle qu'offraient ces vergers aux fruits faussement succulents, pas un seul n'était mangeable. Dans l'exquise saveur des poires et des pommes s'était insinuée une écœurante amertume qui faisait que la moindre bouchée se soldait par une nausée durable. Il en allait de même des melons et des tomates. Nahum comprit avec tristesse que sa récolte tout entière était perdue. Il fit vite le lien avec la météorite, dont il déclara qu'elle avait empoisonné le sol, et remercia le ciel que la plupart de ses autres récoltes se situent dans les hautes terres, le long de la route. L'hiver fut précoce et particulièrement froid. Amy vit moins souvent Naoum que d'habitude et remarqua que le fermier commençait à avoir l'air préoccupé. Le reste de la famille Gardner aussi devenait taciturne et se rendait de moins en moins souvent à l'église ou dans les divers rassemblements qu'organisaient les gens du pays. On ne comprenait pas la cause de cette réserve ou de cette mélancolie, mais toute la maisonnée avouait de temps à autre une santé déclinante et mentionnait une vague impression de mal-être. Naoum lui-même se montra plus précis que les autres, en affirmant être troublé par des traces de pas dans la neige. Il s'agissait d'empreintes d'écureuils roux, de lapins blancs et de renards, ce qui était habituel l'hiver. Mais le fermier soucieux prétendait déceler quelque chose de singulier dans leur nature et leur disposition. Il n'entra jamais dans les détails, mais semblait penser qu'elles ne correspondaient pas aux empreintes qu'auraient dû laisser des écureuils, lapins et renards, à l'anatomie et aux habitudes normales. Amy ne prêta pas vraiment attention à ce que disait Naoum, jusqu'au soir où il passa en traîneau en revenant de Clark's Corner. Un lapin traversa la route au clair de lune. La longueur surnaturelle de ses bonds ne plut ni à Amy, ni à son cheval. Ce dernier se serait même emballé si son maître ne l'avait retenu en tirant fermement sur ses rênes. Après cet incident, Amy prit plus au sérieux les histoires de Naoum. Il se demandait pourquoi chaque matin, les chiens des Gardner semblaient si intimidés et tremblants. Il s'avéra qu'ils avaient presque perdu le courage d'aboyer. En février, les fils MacGregor de Meadow Hill allèrent chasser la marmotte. Non loin de chez les Gardner, ils abattirent un spécimen très curieux. Les proportions de son corps paraissaient légèrement altérées, d'une manière bizarre, indescriptible. Quant à sa tête, elle avait une expression que personne n'avait encore jamais vue chez une marmotte. Véritablement effrayés, les MacGregor jetèrent aussitôt le cadavre, si bien que les gens du pays durent se contenter de leur récit grotesque. Toutefois, il était désormais de notoriété publique que les chevaux s'emballaient en approchant de la maison de Naoum. Grâce au bouche à oreille, la légende ne tarda pas à prendre corps. On jurait que la neige fondait plus vite autour de chez les Gardner que partout ailleurs. Début mars, des gens sidérés discutèrent au bazar Potter de Clark's Corner. Dans la matinée, en passant en voiture devant la maison, Stephen Rice avait remarqué des faux arômes poussant dans la boue à l'orée des bois, de l'autre côté de la route. On n'en avait encore jamais vu d'aussi gigantesques, et leur couleur était littéralement indescriptible. Les plantes étaient difformes. Le cheval s'ébroua en réaction à l'odeur. Stephen fut surpris car il n'avait rien senti de tel de toute sa vie. L'après-midi même, plusieurs personnes passèrent voir l'anomalie, et tous furent d'accord pour dire que de telles plantes n'auraient jamais dû pousser dans un monde sain. On évoqua ouvertement les fruits gâtés de l'automne précédent, et le bruit courut que la terre de Naoum était empoisonnée. Bien sûr, c'était la faute de la météorite. Ainsi, se rappelant combien les universitaires avaient trouvé la pierre étrange, plusieurs fermiers allèrent leur parler. Un jour, les professeurs rendirent visite à Naoum. Toutefois, comme ils n'aimaient pas les histoires extravagantes et les légendes, ils restèrent très timides dans leurs conclusions. Les plantes étaient certes singulières, mais les faux arômes étaient toujours singuliers de forme, d'odeur et de teinte. Peut-être quelques éléments minéraux émanant de l'aérolite avaient-ils pénétré le sol. Cependant, les pluies auraient au fait de nettoyer la terre. Quant aux empreintes et aux chevaux terrifiés, il s'agissait bien sûr de commérages de paysans. Les chutes de météorites ne manquaient jamais de susciter ce genre de réaction. Les gens sérieux ne se préoccupaient pas de ce genre de bavardages incontrôlables. Les paysans superstitieux, disant et croyant n'importe quoi. Par conséquent, tout au long des jours étranges, les professeurs gardèrent leur distance avec dédain. Seul l'un d'eux, Quand on lui donna deux flacons de poussière à analyser pour une enquête de police, plus d'un an et demi après, se rappela que l'étrange couleur des faux arômes ressemblait beaucoup à celle d'un des raies du spectre anormal produit par le fragment de météorite, mais aussi aux fragiles globules encastrés dans la pierre venue des profondeurs de l'espace. Les échantillons de poussière émirent tout d'abord les mêmes raies bizarres, mais perdirent cette propriété par la suite. Autour de chez Naoum, les arbres bourgeonnaient prématurément. La nuit, ils se balançaient de manière inquiétante dans le vent. Le second fils de Naoum, Thaddeus, un garçon de 15 ans, soutenait qu'il se balançait aussi quand il n'y avait pas de vent. Mais même les commères refusaient de le croire. Cependant, il ne faisait aucun doute qu'il y avait de l'agitation dans l'air. Toute la famille Gardner prit l'habitude de tendre l'oreille, même s'il n'aurait su dire ce qu'il cherchait, dans la mesure où il n'était qu'à moitié conscient quand cela se produisait. Malheureusement, ces moments devinrent de plus en plus fréquents semaine après semaine, jusqu'à ce que tout le monde finisse par dire que toute la famille de Naoum avait une araignée au plafond. Lorsque la première saxifrage sortit en avance, on remarqua qu'elle avait aussi une couleur absurde, pas tout à fait identique à celle des faux arômes, mais clairement apparentée, et tout aussi inconnue de ceux qui la virent. Naoum emporta quelques fleurs à Arkham pour les montrer au rédacteur en chef de la Gazette. Mais cet éminent personnage se contenta d'écrire à leur sujet un article humoristique dans lequel il tournait gentiment en ridicule les sombres craintes des campagnards. Naoum avait commis l'erreur de décrire à cet impassible citadin le comportement des Morios, devenu démesurément grand vis-à-vis des dites saxifrages. Quand vint le mois d'avril, les gens du pays furent pris d'une sorte de folie et cessèrent d'emprunter la route qui passait à côté de chez Naoum, route qui finit par être totalement abandonnée. C'était la végétation. Tous les arbres du verger se couvraient de fleurs aux teintes extravagantes et, sur le sol pierreux de la cour, dans le pré adjacent, poussèrent subitement des plantes singulières que seul un botaniste aurait pu rattacher à la flore habituelle de la région. Hormis l'herbe et les feuillages verts, tout n'était que couleur démente et malsaine, nuances criardes et prismatiques de quelques tons fondamentaux sous-jacents qui n'avaient pas sa place parmi ceux que l'on connaissait sur Terre. Les cœurs de Marie inspiraient désormais un sinistre sentiment de menace, et les sanguinaires se firent insolentes dans leur perversion chromatique. Amy et les Gardner trouvaient que toutes ces teintes avaient quelque chose de familier. Devant cette impression obsédante, ils décidèrent qu'elle leur rappelait le fragile globule dans la météorite. Naoum laboura et ensemença le pré de 4 hectares et la parcelle sur le plateau, mais ne toucha pas au terrain autour de sa maison. Il savait que ce serait inutile tout en espérant que, l'été venu, l'étrange végétation purgerait le sol de tout son poison. Maintenant, il s'attendait à tout, ou presque. Il s'était habitué à cette impression que quelque chose près de lui n'allait pas tarder à se faire entendre. Bien sûr, le fait que les voisins évitent sa maison lui pesait, mais pas autant qu'à sa femme. Les garçons s'en tiraient mieux, car ils allaient tous les jours à l'école. Toutefois, ils ne pouvaient s'empêcher d'être effrayés par les commérages. Thaddeus, un adolescent particulièrement sensible, était celui qui en souffrait le plus. En mai arrivèrent les insectes, et la maison de Naoum devint un cauchemar de bourdonnements et de bruits de pattes. La plupart des créatures ne paraissaient pas tout à fait normales dans leur apparence et leurs mouvements. Quant à leur comportement nocturne, il allait à l'encontre de tout ce que l'on avait connu. La nuit, les Gardner se mirent à guetter, à regarder au hasard dans toutes les directions à la recherche de quelque chose. Mais de quoi, ils l'ignoraient. Tous reconnurent alors que Thaddeus ne s'était pas trompé à propos des arbres. Madame Gardner fut la seconde à le remarquer, alors qu'elle observait les rameaux gonflés d'un érable qui se découpait sur le ciel éclairé par la lune. Les branches bougeaient à n'en point douter, et pourtant, il n'y avait pas de vent. C'était sans doute la sève. Désormais, l'insolite n'épargnait plus aucun végétal. Ce ne fut cependant pas un Gardner qui fit la découverte suivante. L'habitude avait émoussé leur sens et ce fut un timide représentant en éolienne de Bolton qui aperçut ce qu'eux n'étaient plus en mesure de voir. Ignorant tout des légendes du pays, il passait en boquet de nuit. Ce qu'il raconta à Arkham fit l'objet d'un entrefilet dans la Gazette. Et c'est donc dans le journal que tous les fermiers, y compris Nahum, en entendirent parler pour la première fois. Cette nuit-là, il avait fait particulièrement noir, d'autant que les lanternes de la voiture étaient insuffisantes. Mais autour d'une ferme de la vallée, ferme que tout le monde, d'après la description, identifia comme étant celle de Nahum, les ténèbres étaient moins denses. Une luminosité faible mais distincte émanait de toute la végétation, herbes, feuilles et fleurs comprises. Et à un moment, un élément de la phosphorescence générale avait semblé se déplacer furtivement dans la cour, près de la grange. L'herbe n'avait encore jamais paru affectée, et les vaches paissaient librement sur le terrain proche de la maison. Mais vers la fin mai, le lait commença à tourner. Nahum déplaça alors ses animaux sur le plateau, après quoi tout rentra dans l'ordre. Peu de temps après cet incident, le changement dans la nature de l'herbe et des feuillages devint visible à l'œil nu. Toute la verdure virait au gris et prenait une consistance cassante hautement singulière. Seul Amy venait encore rendre visite au Gardner, mais c'était de plus en plus rare. À la fin de l'année scolaire, la famille se trouva pour ainsi dire coupée du monde. Parfois, Amy se chargeait d'aller faire leurs courses en ville. Il déclinait étrangement, tant sur le plan physique que mental. Et personne ne fut surpris quand circula la rumeur que Madame Gardner avait perdu la raison. Cela se produisit en juin, à peu près à la date anniversaire de la chute du météore. La pauvre femme hurlait qu'elle voyait dans l'air des choses qu'elle ne pouvait décrire. Dans son délire, elle ne citait aucun nom précis, mais s'exprimait seulement en utilisant des verbes et des pronoms. Des choses bougeaient, changeaient, voltaient, et ses oreilles tintaient sous l'effet d'impulsions qui n'étaient pas tout à fait des sons. Quelque chose lui était enlevé, on l'en vidait, quelque chose qui n'aurait pas dû être s'accrochait à elle. Quelqu'un devait l'en débarrasser. Rien n'était jamais immobile dans la nuit. Les murs et fenêtres se déplaçaient. Au lieu de l'envoyer à l'asile du comté, Nahum la laissa errer dans la maison tant qu'elle ne représentait aucun danger pour elle-même ni autrui. Même lorsque l'expression de sa femme changea, il ne fit rien. Mais quand les garçons commencèrent à avoir peur d'elle, quand Tadeusz faillit s'évanouir devant les grimaces qu'elle lui adressait, Nahum décida de l'enfermer au grenier. En juillet, elle avait cessé de parler et marchait à quatre pattes. Avant la fin du mois, son mari avait la folle impression qu'elle luisait faiblement dans le noir, tout comme la végétation des alentours que, désormais, il voyait clairement briller. Il n'y avait pas très longtemps que les chevaux s'étaient échappés. Une nuit, quelque chose les avait réveillés dans leur stall et leurs ruades et hennissements avaient été terribles. Il semblait impossible de les calmer. Lorsque Nahum avait ouvert la porte de l'écurie, les animaux avaient détalé comme des cerfs affolés. Il avait fallu une semaine pour les retrouver tous les quatre, mais alors on s'aperçut qu'ils étaient devenus inutiles et ingérables. Quelque chose s'était fêlé dans leur cerveau, et on dut tous les abattre. Nahum emprunta un cheval à Amy pour rentrer ses foins, mais la bête ne voulut jamais approcher la grange. Elle broncha, regimba, hennit, mais à la fin, le fermier fut obligé de la conduire dans la cour pendant que les hommes se chargeaient de tirer eux-mêmes la lourde charrette vers le grenier à foin pour pouvoir la décharger à la fourche. Et pendant ce temps, la végétation devenait encore plus grise et fragile. Même les fleurs aux teintes si bizarres viraient au gris à présent, et les fruits sortaient cendrés, ratatinés et insipides. Les asters et les gerbes d'or fleurissaient gris et difformes. Et les roses, passe-roses et autres ignas de la cour étaient de tels blasphèmes que Zénas, l'aîné de Nahum, les coupa. C'est à peu près à ce moment que les insectes étonnamment bouffis moururent, y compris les abeilles, qui avaient pourtant déserté leurs ruches pour fuir dans les bois. En septembre, la végétation s'effrita rapidement en une poudre grisâtre. Naoum craignait que les arbres meurent avant que la terre soit purgée du poison. Désormais, sa femme était sujette à de terribles crises de hurlements qui plongeaient Naoum et ses fils dans un état de tension nerveuse constante. Ils évitaient les gens à présent, et quand vint la rentrée, les garçons ne retournèrent pas à l'école. Mais ce fut Amy qui, au cours d'une de ses rares visites, se rendit compte le premier que l'eau du puits n'était plus bonne. Elle avait un mauvais goût, ni vraiment fétide, ni tout à fait saumâtre, et il conseilla à son ami de creuser un autre puits plus haut, qui servirait jusqu'à ce que le sol soit redevenu sain. Naoum, cependant, ignora son avertissement, car à ce moment-là, il était déjà insensible aux choses étranges et répugnantes. Ses fils et lui continuèrent d'utiliser l'eau infectée, buvant avec la même apathie machinale qu'ils mettaient à manger leur maigre repas à moitié cuit, et à accomplir les corvées aussi monotones qu'ingrates, ponctuant leur journée sans but. Ils paraissaient tous impassibles et résignés, comme s'ils marchaient à moitié dans un autre monde, entre des rangées de gardes anonymes, vers un destin implacable et familier. Thaddeus devint fou en septembre, après être allé au puits avec un seau. Il en était revenu les mains vides, gesticulant, en poussant des cris stridents ponctués de ricanements idiots et de chuchotements à propos de « couleurs qui bougeaient au fond ». Deux dans la même famille, cela commençait à faire beaucoup. Mais Naoum prit la chose avec courage. Il laissa le garçon courir à sa guise pendant une semaine, jusqu'à ce qu'il commence à tomber et à se faire mal. Alors il l'enferma dans le grenier, dans la mansarde en face de celle de sa mère. La manière qu'ils avaient d'échanger des hurlements à travers leurs portes verrouillées était épouvantable, en particulier pour le petit Mervyn, qui s'imaginait les entendre se parler dans quelque horrible langue d'un autre monde. D'ailleurs, l'imagination du jeune garçon était de plus en plus débordante et morbide, et son agitation empira lorsque Naoum le sépara de ce frère qui avait été aussi son meilleur camarade de jeu. Presque au même moment commença l'hécatombe des animaux. Les volailles devinrent grisâtres et moururent très rapidement. Quand on les ouvrit, leur viande se révéla sèche et répugnante. Les porcs, extraordinairement gras, subirent brusquement d'horribles transformations que personne ne fut en mesure d'expliquer. Bien sûr, leur viande était immangeable, et Naoum ne savait plus quoi faire. Aucun vétérinaire rural ne voulait approcher de la maison, et celui d'Arkham s'avoua franchement impuissant. Les cochons devinrent gris et friables. Ils tombèrent en morceaux avant de mourir. Leurs yeux et leurs groins présentaient des altérations singulières. Leur sort était d'autant plus inexplicable que Naoum ne les avait jamais nourris avec la végétation contaminée. Ensuite vint le tour des vaches. Certaines zones, ou parfois le corps tout entier, se flétrissaient ou réduisaient de manière troublante, et il n'était pas rare que leurs corps subissent d'atroces effondrements ou désintégrations. Dans les derniers stades, et cela se terminait toujours par la mort, leur chair devenait grise et dure comme celle des porcs. Il ne pouvait être question d'empoisonnement, l'étable des animaux malades étant fermée à clé et protégée. Le virus ne pouvait être dû à la morsure d'un prédateur en maraude, car, pour cela, il aurait fallu que la bête traverse les murs, ce dont aucun être vivant de cette terre n'était évidemment capable. Il ne pouvait donc s'agir que d'une épidémie naturelle. Et cependant, nul n'était capable de dire quelle maladie pouvait bien présenter de tels symptômes. Quand vint la moisson, il ne restait plus un animal à la ferme, bétail et volailles étant morts, et les chiens s'étant enfuis. Ces chiens, au nombre de trois, avaient tous disparu la même nuit. On n'entendit plus jamais parler d'eux. Les cinq chats étaient partis quelque temps auparavant, mais cela se remarquait à peine puisqu'il semblait ne plus y avoir de souris. De plus, seule Madame Gardner s'était attachée au gracieux félin. Le 19 octobre, Naoum entra d'un pas chancelant chez Amy. Il était porteur de nouvelles atroces. La mort avait frappé le pauvre Tadeusz dans sa mansarde, et elle était survenue d'une manière indicible. Naoum avait creusé une tombe dans la parcelle familiale clôturée derrière la ferme et y avait enterré ce qu'il avait retrouvé. Rien n'avait pu venir de l'extérieur, la petite fenêtre à barreaux et la porte étaient restées fermées et intactes. Mais à l'intérieur, la scène ressemblait beaucoup à ce qui s'était passé dans la grange. Amy et sa femme firent de leur mieux pour consoler leurs voisins dévastés, mais frémirent tout du long. Une terreur absolue semblait s'accrocher au Gardner et à tout ce qu'il touchait, et la présence d'un membre de la famille dans la maison des Pierce faisait l'effet d'un souffle venu de régions innommées et innommables. C'est avec la plus grande réticence qu'Amy raccompagna Naoum. Il fit son possible pour calmer les sanglots incontrôlables du petit Merwin. Zenas, lui, n'avait pas besoin d'être calmé. Dernièrement, il ne faisait rien d'autre que regarder dans le vide et obéir aux ordres de son père. Et Amy trouvait cela bien préférable. Par moments, on entendait dans le grenier une réponse étouffée aux cris de Merwin. Voyant le regard inquisiteur d'Amy, Naoum expliqua que sa femme était très faible. Comme la nuit approchait, Amy trouva un prétexte pour filer. Car même l'amitié n'aurait pu le décider à rester alors qu'apparaissait la légère luminescence de la végétation et que les arbres semblaient sur le point de se mettre à osciller malgré l'absence de vent.